Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 janvier. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Madame Expert.
On peut se re-souhaiter une bonne année.
Mais oui, bonne année.
Et
bonne
ainsi
année.
Qu'à notre invité pour démarrer sur le bon pied cette année, Sophia Essaïdi. Bonjour,
bonjour
Sophia. Merci d'être avec nous.
Hein.
Oui, absolument.
C'est notre première bonne résolution, c'est inviter Sophia Essaïdi.
Voilà, absolument. Sophia Essaïdi, avec vous, on va parler de cette fiction événement qui sera diffusée sur TF1 jeudi soir, La Promesse. Il y a 6 épisodes. On va y revenir. Je dis juste qu'on nous envoie avant les épisodes. Parfois, il y en a un, il y en a deux. Et là, on a eu les 6, Gilles et moi. Et je dois vous dire, en mode teasing, que j'ai tout enchaîné. Et à la fin du premier, je me suis dit... Oh, parce que parfois, on en a qu'un. Je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il y ait les autres. Parce qu'on est complètement happé.
Ah, c'est très gentil.
Vraiment,
c'est
vraiment. Plaisir. Je suis très sincère. Vous Merci. Entendez mon enthousiasme. Voilà. Donc, on va en reparler avec vous dans un instant. La question du jour, Gilles.
La question du jour, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio. Bon, elle s'impose, c'est l'événement média. Est-ce que vous allez regarder le JT de Marie-Sophie Lacaro qui remplace Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à 13h ou Julien Bugier qui lui arrive évidemment pour remplacer Marie-Sophie Lacaro sur France 2. Est-ce que qui va gagner ce combat? Bon, on le saura demain avec les audiences. En tout cas, pour nos auditeurs, il n'y a pas match. C'est 74% de nos auditeurs qui vont regarder Marie-Sophie Lacaro sur TF1 et Julien Bugier, 26%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et puis on verra qui vous allez regarder.
Ouais. Mais enfin, il y a la force aussi de TF1 et de ce JT qui est une institution. Donc je pense que Marie-Sophie Lacaro part avec un avantage certain. Vous regardez les JT à la télé ou pas du tout?
Bien sûr.
Ouais.
Moi j'ai grandi avec France 2. Parce qu'on on avait oui. France 2, donc j'ai l'habitude, mais après c'est vrai que ça dépend des jours. Mais,
ouais.
Oui, bien
mais
sûr.
C'est vrai qu'on a des habitudes, hein, hélas pour France 2 parfois, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes. Vous regardez quoi à la télé?
Je regarde de moins en moins la télé, ouais. Je dois l'avouer. Ouais.
Bah, les enfin, plateformes quand on, aussi, quand on hein. parle de les plateformes, pour vous c'est pas la télé?
Ah non.
Non,
quand on dit la télé, oui, c'est plutôt les émissions.
C'est les émissions, ouais. Ouais. Et donc, vous regardez... donnez-nous une série tiens, qui vous a plu récemment.
Oh là là, je viens de regarder une série très ancienne qui s'appelle The Night Of. Mm-hmm. Sur OCS, ouais. Et j'ai pris une très très grosse claque. Mais il y en a plein.
Il y en a plein. Hein.
Succession aussi.
Succession, c'est génial.
Oh, c'est formidable.
Et vous êtes du genre à faire ce qu'on appelle du binge-watching, c'est-à-dire à regarder vraiment la série
j'ai commencé une série hier qui s'appelle les Outsiders. Oui. Je pense que je suis au 5e épisode.
D'accord. Voilà. Très bien.
J'ai commencé hier soir. Hein, donc,
mais bon. Il faut dire que, encore une fois, la télévision aujourd'hui propose des choses tout à fait
puis
très
bonnes. Moi, les séries, je trouve ça formidable. Ouais, ouais. Alors, par contre, il faut que je fasse attention parce que je regarde de moins en moins de films.
Ouais.
Et ça c'est très
vrai.
Bien. Mais il y a ce truc dans la série qui nous chope. Il y a un truc haletant à chaque fois. Je trouve ça vraiment... On a envie d'y retourner, on a envie de savoir. J'adore les séries.
C'est très bien fait. Gilles, on va passer au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Vous avez dû avoir du mal à faire le choix, non?
Non, j'ai eu plein de possibilités, mais j'ai essayé d'aller dans les choses les plus récentes, mais j'aurais pu vous diffuser les bonnes années, diffuser le son de la première vaccinée, on l'oublie, la première vaccinée.
Morissette,
c'est un événement. Donc, je me suis dit, je vais quand même aller sur des choses un petit peu plus récentes. Et bien, le plus récent, c'est le son de cette nuit, un son qui va faire grand bruit et qui le fait déjà aux États-Unis. Ouais. C'est l'enregistrement de Donald Trump, révélé par le Washington Post, qui met la pression sur le secrétaire d'État de Géorgie pour qu'il lui trouve, allez, trouve-moi 11 780 voix. Écoutez.
I just want to find 11,780 votes, which is one more that we have.
C'est une voix de plus de ce nom dont j'ai besoin. Alors évidemment,
c'est pour essayer d'inverser le vote.
Mais, exactement. Mais... Alors là, ça fait scandale. Et lui répond dans la même vidéo de son que les Américains ont voté et que ça a été recompté 3 fois. Et Trump lui dit oh, si tu recomptes une 4e fois, on t'en voudra pas. C'est vraiment, je pense que c'est le son qui va marquer jusqu'au 20 janvier, date de passation des pouvoirs. Restons dans le pouvoir justement avec Éric Revel, notre ami d'Azur TV, qui était sur CNews, qui lui a révélé quelque chose d'incroyable. Et ben vous allez voir que les Allemands, pour la vaccination, vous allez comprendre pourquoi ils sont en avance sur nous.
Le seul qui fonctionne aujourd'hui, le Pfizer, on n'en a pas commandé assez en Europe. Donc on ne peut pas servir suffisamment la France. Donc en fait, on manque également de matière. Résultat, et j'en termine là, Thomas, que fait l'Allemagne ? Solidarité européenne, mon œil, l'Allemagne a décidé de commander de son côté des vaccins. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte où on en est ? Donc bureaucratie française et nouvel échec de l'Europe, on peut l'appeler comme ça, on n'a pas commandé assez de vaccins qui marchent aujourd'hui.
Et oui, en loose day, les Allemands, ils ont commandé des vaccins à Pfizer de leur côté.
C'est ce qui s'était passé pour les masques, c'est ce qui s'est passé pour les respirateurs aussi. On avait raconté l'histoire de l'ambassadeur allemand qui s'était déplacé sur place en Chine pour aller piquer ou en tout cas essayer de récupérer des marchés qui avaient été attribués à la France. Donc on n'est pas très bon. Vous avez un avis là-dessus, Sophia, ou pas ou...
On
pose la question bateau quand même. Ouais. On va poser à tous nos invités. Vous allez vous faire vacciner ?
Non. Je ne suis pas un sujet à risque, mais je ne pousse pas les gens à ne pas le faire. Bien sûr, c'est le choix de chacun, mais non, je ne vais pas le faire. Non.
Bon. Vous avez peur ?
Je ne suis pas un sujet à risque, donc je prendrai la dose de quelqu'un qui en a forcément plus besoin.
Vous allez nous raconter comment ça se passe, les tournages d'ailleurs, avec le Covid. Je crois que vous avez tourné en période de Covid d'ailleurs.
Oui, j'ai tourné trois films.
Donc on en reparlera tout à l'heure, Gilles.
Voilà donc le sujet de la vaccination qui fait évidemment les parties peut-être des bonnes résolutions. Et les chaînes info d'ailleurs ont enchaîné beaucoup de choses autour de ça. Et puis BFM a décidé le 31... d'aller faire un micro-trottoir en direct sur les bonnes résolutions, mal leur en a pris.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ?
Réveillon, mais à trois personnes.
Ah, vous étiez vous dans les règles ?
Ben oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée en boucle.
C'est pas sympa, c'est pas sympa. Bon, en tout cas, vous avez passé une bonne soirée et vous avez respecté les règles du gouvernement.
Ah, vous avez vu, elle est partie très très vite. Elle lui a enlevé le micro. Je vous l'ai remis quand même parce que c'est assez drôle.
J'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée en boucle.
C'est pas sympa.
C'est direct, sur les aléas du direct.
Alors restons avec les râleurs. Élie Simoun a présenté ses vœux. Alors bonne année 2021.
Ouais, ah non,
il a présenté ses meilleures excuses. Il s'est dit qu'il fallait mieux anticiper toutes les excuses qu'il allait faire par rapport à tout ce qu'il voulait faire dans la liberté de la parole en 2021. Faut mieux avoir tout dit à l'avance.
Voilà, je voulais m'excuser auprès de la communauté portugaise. Je voulais m'excuser aussi auprès de la communauté noire, musulmane et juive. J'ai dérapé, j'ai pas fait attention à ce que j'ai écrit. J'ai pas voulu me manquer de respect, rien du tout, mais vraiment je suis désolé. Là, mon humour, c'est parti trop loin. Voilà. Si je dérape en 2021, au moins je suis blindé, je suis sécurisé, il n'y a pas de problème, je me suis déjà excusé à l'avance. Voilà. Allez, salut les PD. Oh, pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle.
Mais voilà. C'est bien vu quand on lit sous-jacent ce qu'il veut raconter sur la liberté de parole. C'est plutôt bien vu. Je ne pouvais pas vous accueillir sans ce nouvel an, sans un petit cadeau pour vous, Sophia, et pour Valérie. J'espère que vous avez apprécié mon cadeau à sa haute valeur.
On s'attend au pire.
Et oui, c'est une bonne année que va vous souhaiter le chanteur Grégoire. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Bonne année de Grégoire.
Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue.
Quand vous n'avez plus d'oreilles, Valérie. Des fois, vous me jetez des choses que je vous mets formidables, comme des gens de la Starac ou de The Voice. Et là, vous appréciez Grégoire, vous allez me dire.
Non, j'apprécie pas, mais je ne trouve pas plus ridicule.
Vous rechantez, Sophia ?
J'espère bientôt.
Oui. C'est vrai, ça vous manque ?
Bien sûr que ça me manque. J'adore
vous
ça.
Vous êtes une personne complète, complexe, puisque je rappelle peut-être pour ceux qui nous écoutent, donc Sophia Essaïdi, on vous a découvert au moment de la Starac 3, donc vous chantez et aujourd'hui vous êtes
Et elle danse.
Et vous dansez, vous avez été effectivement coach dans Danse avec les Stars, enfin vous avez participé à ça, mais surtout vous êtes une comédienne formidable, vraiment, je le dis assez souvent, on ne vous voit pas assez souvent justement, et on vous redécouvre. Donc là, comment vous faites ? Il n'y a pas de choix à faire en fait, vous chantez, vous dansez, vous jouez.
C'est les projets. qui m'emmène à faire l'un ou l'autre. Après la musique, j'ai pas été très heureuse, donc j'ai voulu à un moment donné prendre du recul pour pouvoir retrouver une liberté vraiment d'être la chanteuse que j'avais envie d'être. Ouais. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu des projets de plus en plus intéressants en comédie. Ouais.
T'es pas très heureuse parce que c'était marketé, parce que le monde de la musique voulait vous faire chanter des choses que vous vouliez pas chanter.
Oui.
Pourquoi pas très heureuse ?
Pour ça, exactement. Parce que j'avais des envies, j'avais des choses à dire et ça n'intéressait pas les personnes avec lesquelles je travaillais à l'époque. Et ça a été vachement douloureux. Et il a fallu vraiment que je fasse un stop assez radical. Pour vraiment avoir cette liberté qui me manquait pour être épanouie et heureuse.
Ça veut dire quand on est artiste dans une maison de disques, on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on chante et de ce qu'on fait ?
Ça dépend. Moi, il se trouve que je n'avais pas cette chance-là, non. Ouais. Et je me suis débattue pendant très longtemps. Ça a été très douloureux d'essayer d'imposer les choses. J'ai pas réussi. Donc, au lieu de souffrir, j'ai vraiment préféré arrêter, changer, et puis prendre beaucoup de recul pour pouvoir revenir avec des choses vraiment qui me correspondent à 100%.
Et le premier. C'est quoi la différence, justement, entre ce que vous aviez envie de chanter et
C'est le style. Être une artiste, quoi. Je suis une artiste, j'avais envie de l'être et de le montrer, mais pour beaucoup de personnes, j'étais un produit, que je peux comprendre, de là où je viens.
Ça colle à la peau, l'image Starac.
Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, mais je le comprends. On arrive dans un certain monde. Après, moi, je pensais réussir à me démarquer de ça. Et je me suis débattue, vraiment, pendant très longtemps.
Et après le passage à la comédie, comment ça se passe au fait de devenir comédienne ?
Moi, j'ai toujours dit que je ferais les deux. Mmh. Donc, mon premier film, moi, je l'ai tourné en 2004, un an après la Starac. C'était Is No Good. Et puis après,
Aïcha,
exactement.
Aïcha,
c'est vraiment c'est mon premier rôle. Et puis finalement après, moi je tourne pas beaucoup parce que je suis très très exigeante. J'ai la chance vraiment de pouvoir.
C'est vrai.
De refuser.
On vous propose beaucoup de choses et vous refusez beaucoup de choses.
Oui, c'est vraiment une.
Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou non ? On va parler évidemment de La Promesse qui sera diffusée, je le rappelle, jeudi sur TF1. Je vous lis le message de Catherine qui nous dit « J'ai vu la série sur Salto » parce qu'elle est effectivement disponible sur Salto avant la diffusion. Super top, j'ai regardé les 6 dans la foulée, comme moi. Très bonne série, bien joué Olivier Marchal, toujours top. Et Sophia, vraiment, vraiment top aussi. Donc, je pense que vous allez cartonner parce qu'on est happé en fait par l'univers, par la réalisation en fait qui est extrêmement subtile. On va pas en dire plus parce que c'est une fiction c'est un polar, un thriller on se laisse porter et on est encore une fois je le dis happé. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ? C'était Olivier Marchal, c'est le scénario, c'est quoi qui fait que
j'ai été happé. Moi aussi j'ai lu les 6 scénarios d'un coup. Normalement on met un peu de temps mais moi je me suis pas arrêtée. Anne Landau a fait quand même un travail extraordinaire la scénariste.
Qui est la scénariste, ouais.
Ouais. C'est le rôle. Moi, il faut toujours que ça résonne. Il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Il faut que j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, de pouvoir livrer un message, de pouvoir même moi travailler sur des choses intimes et personnelles. Si ça résonne pas, j'y vais pas.
Oui.
Et je peux accepter un second rôle qui résonne et refuser un premier rôle qui ne résonne pas. Donc. Et puis là, c'était génial. Et puis ce que j'ai trouvé aussi super, c'était de faire une série de flics. On a l'impression qu'il y en a tout le temps, partout. Mais celle-ci, je la trouve spéciale, je la trouve originale. Je trouve qu'on parle d'hommes et de femmes, on parle des conséquences des enquêtes
sur les policiers, sur l'enquêteur, qui n'arrive pas. On peut dire le démarrage, c'est une petite fille qui est enlevée. Ouais. Olivier Marchal est flic, enquêteur, et il est un peu seul dans cette enquête. Cette petite fille, évidemment, n'est pas retrouvée et le coupable non plus. Donc on va pas en dire plus. Vous reprenez. Ce qu'on peut dire, c'est que on vous voit reprendre l'enquête 30 ans après. Mais on n'en dit pas
on
plus.
On n'en dit pas plus.
Mais vous êtes flic vous aussi, donc on peut citer quand même. Donc c'est créé par Anne Landois, vous l'avez dit, qui a écrit également pour Engrenage, réalisé par Laure de Butler.
Une femme qui réalise.
Oui, absolument.
C'est une femme qui écrit, c'est une femme qui réalise et c'est une femme aussi qui produit parce que Anne Landois est aussi productrice avec Vassili Clair.
Alors, un casting assez épatant, donc on l'a dit, vous, Sophia Issaïdi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, qui est,
ah,
est
super,
assez, ouais, ouais, génial, assez super, ouais. Guy Lecuiz, qu'on avait reçu, qui ouais. est formidable aussi, ah, ouais, ouais. Ouais. Enfin tous, franchement, Natacha Régnier, Nadia Spares, Robinson Stévenin, qui est absolument incroyable, qui a une présence folle, Jules Houplin, qu'on avait également reçu, qui fait...
pour les innocents.
Voilà, qui fait Tony...
C'était sa première radio.
Plus jeune, on peut citer Juliette Katz, Leslie Medina, enfin, il y a vraiment une équipe assez formidable. Comment ça s'est passé ? Vous avez tourné quand, ça ?
Alors, on a commencé le tournage en février. Hein, donc ouais. en hiver, donc habillé en hiver pour
de
l'hiver.
2019,
c'est ça.
Ah ouais.
On dans a été... les Landes.
C'est vous avez ça. Tourné en été pour l'hiver. Oui. Vous êtes sous... très couvert à chaque fois.
Hein. Et on a repris le tournage en juillet.
Ah, d'après. Parce qu'il a été interrompu, j'imagine, par le premier confinement
tout
qui était
fait.
Très strict.
Exactement. Et on a eu la chance de reprendre. C'était pas le cas de tout le monde, donc on était très très contents. Mais quand on s'est rendu compte que c'était
de reprendre
trois mois après,
ça doit faire bizarre quand même.
Ouais. C'est il y a un vrai travail à faire pendant le confinement pour ne pas complètement lâcher le rôle, pour ne pas complètement lâcher le personnage, l'histoire. Ça a été un peu assez original. C'est une expérience. Hein. Mais la vraie expérience a été de tourner pendant cet été caniculaire. pendant trois mois.
C'est marrant parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte quand on regarde.
On a fait beaucoup d'efforts pour que ça ne se voit pas.
Non, mais même, on a l'impression que les paysages sont...
Il y a eu un énorme travail. Énorme travail technique.
La lumière sur ce...
Ah ouais. Benjamin Louis, qui est un génie.
On peut, sans trop dévoiler, dire que vous êtes flic enquêtrice spécialisée dans les
brigades des mineurs.
C'est vrai qu'il y a un naturel dans la manière dont vous parlez aux enfants. C'est un sujet qui vous touche, qui vous intéresse forcément, j'imagine. Vous êtes allé voir des flics ou pas quand on prépare un rôle comme celui-là ?
Non, pas du tout. Non, ce que j'ai fait, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment intéressée sur ce tournage, c'est le travail psychologique de mon personnage. Il y a un vrai travail, il y a une vraie histoire, il y a des vraies blessures, il y a des choses qui empêchent cette fille, Sarah, d'être heureuse, d'être bien dans son présent. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le vrai travail. Après, le travail avec les enfants, ça a été vraiment différent de ce que je pensais. Quelque chose de très intéressant que la réalisatrice m'a conseillé. Moi, j'ai une empathie, j'imagine, comme tout le monde, très forte avec les enfants, encore plus, forcément. Et du coup, il y a eu un travail inverse à faire. C'est que...
Mettre de la distance.
Et ça a été hyper intéressant. J'y avais pas pensé, mais naturellement, forcément, on a des enfants en face de nous, on a envie, surtout qu'il y a des histoires assez terribles. Et la réalisatrice m'a dit, tu sais, des fois, il y a des enfants qui mentent. Et si tu donnes tout, si tu ne prends pas cette distance-là, tu peux louper des choses. Et du coup, j'ai eu un travail à faire à l'inverse de distance, et j'ai trouvé ça super intéressant.
Ouais. Olivier Marchal, il est comment
Olivier
sur un
Marchal.
Tournage
Alors, est-ce Olivier qu'il... Marchal, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet.
Vous le savez quand vous connaissez quand le casting quand
Je l'ai su.
Je l'ai scénario.
Su. Je l'ai su. Ça dépend. Là, on l'a su après parce que c'est vrai que j'ai été contactée très très vite.
Très en amont.
Ouais, très en amont
et,
dans ce projet.
Pardon, juste une parenthèse. On vous a dit pourquoi vous ? Est-ce qu'elle vous l'a dit la productrice
Vous lui demanderez, vous me direz. Ça m'intéresse.
Non.
Mais voilà, c'est vrai que je l'ai su après. Mais Olivier Marchal est quelqu'un que j'aime profondément depuis très longtemps, sans le connaître. Et alors là, je peux vous dire que c'était bien au-delà de mes espérances. C'est une personne extraordinaire, je pèse mes mots. C'est un humain hors norme, d'une humanité, d'une sensibilité, d'une douceur, d'une gentillesse. Mais vraiment, et sans égal. Mais vraiment.
Les Rivières pourpres vont revenir sur France 2.
Ah bon ?
Je suis au taquet pour le faire revenir ici, on l'avait déjà reçu.
Oui, on l'avait reçu, absolument.
Et ça avait été un vrai bonheur de le recevoir, donc... Et en effet, la nouvelle saison des Rivières pourpres va arriver sur France 2. On va essayer de la voir ici.
Ouais.
Vous pourrez venir si vous voulez.
Avec plaisir.
et la suite pour vous, c'est quoi ? Vous continuez à tourner ? On a évoqué chanson.
La chanson, je travaille toujours un petit peu comme ça, dès que j'ai le temps. Et puis je sortirai un album quand j'en serai fière, je suis complètement libre maintenant. Donc
c'est fermé en ce moment.
C'est vrai, on ne peut pas aller sur ça.
Vous ne pouvez pas aller sur ça.
Mais là, juste après la promesse, je me suis envolée pour Chypre. J'ai participé au prochain long métrage de Michel et Boganim. Le film s'appelle Tel Aviv Beyrouth, qui était vraiment extrêmement fort à jouer, c'était formidable. Et puis là, j'ai fini, juste avant les vacances, un film pour France 2 qui s'appelle Les Héritiers, tourné par Jean-Marc Brondolo. Ouais. qui est je suis une lanceuse d'alerte qui allait être sur un médicament dangereux. Donc, trois projets complètement différents. Et ça, ce sera pour cette année.
Et alors, comme vous le disiez, Valérie, tout à l'heure, comment vous tournez avec le Covid ? Vous êtes testée ? Vous avez une scène un peu sexuelle dans La Promesse. Comment on prépare ces scènes en temps de Covid ?
Alors, il y avait une chose très, très drôle, c'est qu'il y avait une scène de baiser au départ, d'un bisou. Et on l'a enlevé.
Ah, incroyable.
On l'a enlevé. Donc on a adapté le quand on a repris donc le tournage en été, il y a beaucoup de scènes qui ont été réadaptées par rapport au Covid, qui ont été réécrites.
Ah oui.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'à terme, il y aura peut-être plus de baisers dans les.
On espère que non. C'est l'inverse là maintenant. On espère que ça revienne au maximum. Mais c'est vrai que pour la première reprise, il y avait, je pense, cet impératif de devoir essayer en tout cas de pouvoir réécrire des choses sans évidemment changer l'intrigue, sans changer ce qu'il y avait à raconter. Mais je sais qu'il y a eu un travail de réécriture qui a été fait juste avant.
Parce que vous avez vu, Valérie, qu'a été annoncé ce week-end que les séries s'arrêtaient de tourner à Los Angeles et que le plus souvent, ça vient pas forcément des studios, mais des assurances qui ne veulent plus assurer évidemment les tournages si jamais il y a des comédiens ou des équipes qui ont le Covid. Et donc, ça coûte trop cher à la production pour prendre le risque. Et donc, évidemment, les tournages doivent être assurés.
Les tests sont là pour ça. On fait des tests, évidemment, bien sûr.
Mais tous les jours
Non. Mais ça dépend. Ça dépend parce qu'ici, en France, on n'a pas le droit d'imposer les tests.
Ah.
Donc c'est au bon vouloir de l'acteur. J'imagine que personne ne refuse, mais c'est vrai que quand j'ai tourné à Chypre, c'était tous les 3 ou 4 jours. Ouais. Mm. Et ça, on n'avait pas le choix. Mais moi, j'étais ravie de le faire. Ça permet d'être relax sur le tournage.
Alors, ça s'appelle donc La Promesse. Ce sera diffusé jeudi, à partir de ce jeudi, 3 jeudis de suite. Ouais. Franchement, si vous avez Salto, effectivement, je pense que vous ne résisterez pas à aller voir les 6 épisodes d'affilée. C'est un film, en fait. C'était pas... Franchement, moi, je vous dis, j'ai regardé les 6 à la suite, ce qui est relativement rare. D'abord qu'on nous envoie les 6, donc je vais remercier le service de presse de TF1.
Ça me fait vraiment plaisir.
De TF1. Et donc, c'est vraiment, vraiment parmi les excellentes, si vous avez aimé, ça n'a rien à voir avec Engrenage ou ce type de fiction, mais c'est de cette qualité-là, hein, il faut le dire. C'est assez remarquable. Donc, Lendemain de Noël...
C'est comme une boîte de chocolat, il y a plein de couches, voilà. Hein, je vous préviens.
Voilà.
On vous balade.
Génial.
C'est ça, on vous balade et vous suivez.
Il se passe vraiment beaucoup de choses.
Et ce qui est très bien fait, c'est que les balades, elles sont justifiées. C'est-à-dire que c'est pas...
Et puis, vous vous demandez, parce que moi, j'avais des doutes en me disant, non, mais ça, c'est trop facile, ça, c'est pas possible, et puis, est-ce que...
C'est le but.
Et donc, voilà, ça fonctionne très bien. Donc, c'est jeudi sur TF1, 21h05, donc réalisé par Laure de Butler. Il faut la saluer parce que ce travail...
La réelle est top.
J'allais spoiler un peu, mais...
Non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des surprises dans cette série. C'est très important de les laisser.
Sophia Issaïdi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, Guy Lecluise, Natacha Régnier, Nadia Farès, Robinson Sévenin, Irina Muluil, on va pas tous
Irina qui est super,
elle est géniale.
Qui est super.
Donc voilà, merci d'être venu ce matin, premier jour.
Merci à vous, c'était un plaisir.
De la nouvelle saison.
Oui, on salue les fans de Sophia Issaïdi qui nous ont écrit.
Qui sont merveilleux.
Qui nous ont envoyé des messages. Donc on salue tous les fans.
Voilà. Je vous embrasse aussi très fort.
Vous avez
un
fan club assez impressionnant. Hein.
J'ai cette chance-là. Ouais,
merci beaucoup, Sophia Issaïdi. Soyez vraiment, on vous le conseille fortement, devant TF1 jeudi soir. On se retrouve, nous, dans un instant pour parler de toute autre chose, de la vaccination dans les EHPAD. À tout de suite.
Bonjour, c'est Natacha Harry. Je sais que l'année 2020 a été compliquée pour beaucoup d'entre vous. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien. Nous serons là pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera bien meilleure.
Bonne année avec Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 10h30, vous le savez, nous recevons une personnalité qui de la société civile ou autre pour évoquer un sujet dans l'actualité. Et là, on va parler des EHPAD, de la vaccination dans les EHPAD en particulier. Vaccination qui démarre, vous le savez, extrêmement lentement. On va en reparler évidemment à 11h dans nos débats. Avec moi en ligne, Romain Guilzaume, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Peut-être un point avec vous avant de parler de la vaccination sur la situation du virus dans les EHPAD.
Bah, écoutez, le virus circule au sein des établissements comme il circule encore partout en France. Alors avec cette différence que par rapport à la première vague, aujourd'hui, d'abord, on a un petit peu de recul sur le fonctionnement du virus, sur sa diffusion et donc sur les moyens de protection. L'État a notamment débloqué un certain nombre de dispositifs aussi suite à nos demandes et à l'évolution de l'épidémie, notamment la disponibilité en masque, le fait également de pouvoir renforcer les équipes pour être plus présents et puis le fait de disposer de tests réguliers, etc., qui permettent évidemment de lutter contre ce virus.
Sur ce qui est en train de se passer en termes de vaccination, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quelle est la position de l'association des directeurs de services des personnes âgées ? Visiblement, c'est très très différemment envisagé selon les établissements. Certains établissements n'ont visiblement reçu aucune information. Qu'est-ce que vous dites ?
Bah écoutez, que cette campagne a démarré symboliquement le 27 décembre. Donc entre
oui, mais pardon de vous interrompre, on n'est plus dans le symbole, là on est dans l'urgence.
Oui, je l'entends bien. Pour autant, aujourd'hui, ce qui a été engagé par l'État, c'est effectivement un lancement symbolique le 27 décembre, c'est-à-dire en pleine période de fête, pour marquer le fait que la France avançait sur ce point. Maintenant, les structures elles-mêmes ont reçu un protocole de la part de l'État depuis cette fin d'année. Donc, il est normal que les choses se mettent en place sur les semaines à venir, puisque jusqu'à présent, les familles, les personnes âgées, les professionnels eux-mêmes étaient sur une période de fête avec des congés franchement largement mérités.
Oui, et donc là, comment ça s'organise ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que les EHPAD sont prêts aujourd'hui à vacciner les personnes âgées ?
À vacciner, non, clairement, parce que dans ce protocole, il est prévu un certain nombre d'étapes à respecter. Pour pouvoir vacciner, il faut que vous puissiez au préalable commander le bon nombre de doses, parce qu'avec les modes de conservation, vous n'avez que 5 jours pour assurer cette vaccination. Pour commander le bon nombre de doses à prévoir, il faut d'abord que vous ayez pris le temps de recueillir le consentement des personnes, de sorte à savoir qui souhaite être vacciné ou qui ne le souhaite pas. Et pour pouvoir recueillir ce consentement, il faut que vous ayez d'abord un rendez-vous avec un médecin traitant. Donc on voit bien que toutes ces étapes font que de fait, d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue également, je dirais, juridique et éthique, il faut effectivement prendre un certain nombre de temps, je dirais quelques semaines d'ailleurs, comme l'avait tout à fait annoncé Olivier Véran à propos.
Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même aberrant de voir qu'il y ait toutes ces procédures Je voyais hier le tweet d'un confrère, Claude Veil, qui dit « Tiens, comme je suis un peu maso, je suis allé lire ça, le guide de vaccination envoyé aux EHPAD fin décembre, 45 pages, c'est dément, le prototype de ce que peut produire le mariage de la technocratie et de l'ivresse réglementaire. Tous les éléments du retard sont là, noir sur blanc. » Est-ce que vous partagez ça ? J'ai entendu, moi, d'autres personnels soignants dire que ces 45 pages étaient absolument aberrantes pour un vaccin.
Et la difficulté, ce n'est pas tant le protocole à mettre en place, parce qu'en fait, compte tenu du vaccin dont on dispose et de ses spécificités en termes de conservation et donc de logistique, tous les établissements pour personnes âgées n'ont pas de frigo à moins 80 degrés. Même aucun établissement aujourd'hui en France n'a de frigo à moins 80 degrés. Donc, en fait, vous avez des impératifs logistiques qui imposent effectivement de suivre un certain nombre d'étapes et de prévoir une organisation assez fine. Donc, de ce point de vue-là, les 45 pages semblent plutôt appropriées. Du point de vue du consentement, elles le sont aussi, parce que je vous rappelle, mais vous le savez tout aussi bien que moi, qu'un certain nombre de Français est assez indécis, voire réticent à se faire vacciner. Et la stratégie de l'État a été de faire en sorte de ne pas rendre ce vaccin obligatoire. Et dans ce cadre-là, si le vaccin n'est pas obligatoire, et ça nous paraît plutôt opportun, Il faut prendre du temps pour convaincre. Par contre, si le protocole nous paraît adapté, s'il n'est pas possible d'accélérer à notre sens aujourd'hui en établissement, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour des questions de ressources humaines, il nous semble que ce qui pourrait permettre d'augmenter le nombre de personnes vaccinées, c'est de faire en sorte d'engager la préconisation qui était la nôtre au début de la préparation de cette campagne vaccinale. C'est d'élargir la cible des personnes prioritaires. Aujourd'hui, l'État a choisi de retenir la préconisation de la Haute Autorité de Santé qui vise à mettre en priorité les personnes âgées qui vivent en établissement et quelques professionnels qui sont susceptibles eux-mêmes d'être fragiles à l'égard du coronavirus parce qu'ils peuvent avoir quelques comorbidités ou polypathologies. Bon, c'est un premier élément. Nous avions, nous, demandé à ce que les personnes âgées qui vivent à domicile, qui sont tout aussi fragiles à l'égard du coronavirus, pour lesquelles il y a certainement eu autant de décès qu'en établissement, elles fassent partie de cette cible de première phase vaccinale. Et il nous semble qu'effectivement, notre préconisation s'avère pouvoir être opportune aujourd'hui. À défaut de pouvoir accélérer, il faut élargir le public cible des prioritaires, notamment aux personnes âgées qui vivent à domicile, et je dirais à tous les professionnels qui aujourd'hui seraient prêts à être vaccinés. Parce que ça permettrait d'augmenter le nombre de personnes vaccinées assez rapidement. Et dans un même temps, ça laisserait du temps pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont indécises et ont besoin d'avoir plus d'informations, de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant, etc.
Est-ce que vous avez une idée à peu près de la... Enfin, c'est une question peut-être un petit peu difficile, du nombre, du pourcentage de personnes en EHPAD qui souhaitent se faire vacciner ?
Écoutez, c'est effectivement compliqué parce que ça dépend un petit peu des sondages. Mais on voit bien que, au même titre que dans la part de la population française en général, parmi les personnes âgées en établissement ou parmi les professionnels qui y travaillent, il y a un certain nombre de personnes qui se disent être prêtes à être vaccinées là assez rapidement. Et puis, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont indécises, voire d'autres qui ne souhaiteront pas être vaccinés, ce qu'il faut respecter aussi, puisque l'État a choisi de ne pas rendre cette vaccination obligatoire. Mais nous voyons bien qu'il y a une marge, notamment pour qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se disent prêtes à être vaccinées puissent accéder à cette vaccination rapidement, dès lors que l'État élargira cette phase, cette cible de vacciner sur la première phase.
Une question, il y a une fake news, comme on dit, qui circule, selon laquelle des personnes âgées auraient subi des pressions pour être vaccinées et à qui on aurait dit, si vous ne vous vaccinez pas, vous n'irez pas à la cantine. J'ai lu que c'était une fausse information. Je voulais vous entendre, vous, responsable de maisons de retraite, d'EHPAD, sur ce sujet.
Valérie Expert, d'abord, vous me rassurez quand vous me dites que vous avez entendu cela et que vous avez vu que c'était une fake news. Parce qu'effectivement, si le protocole, notamment, prend du temps sur la question du consentement, c'est parce que, clairement, les personnes âgées qui vivent en établissement sont avant tout des citoyens comme les autres. Dès lors qu'aucun Français ne se voit obligé à la vaccination, il n'y a pas de raison que parce qu'on aurait un certain âge, parce qu'on vivrait dans un type d'habitation particulier qui sont les établissements pour personnes âgées, il n'en serait pas de même pour soi. Et donc, qu'il faille prendre du temps pour informer les gens avec transparence, avec clarté sur les bénéfices de cette vaccination, sur le fonctionnement de ce vaccin, sur les risques éventuels, c'est normal, il faut le faire, et c'est certainement la meilleure stratégie pour convaincre les gens. D'autant que nous le savons, les Français... Et ça se traduit dans chaque sondage, les Français ont plutôt confiance dans leur médecin traitant. Donc, ce temps nécessaire pour qu'il y ait un rendez-vous, pour se voir expliquer l'intérêt de la vaccination, pour décider si on souhaite ou pas être vacciné, est absolument essentiel. Et donc, il faut qu'il soit pris de la même manière pour les personnes âgées qui vivent en établissement comme pour tout autre citoyen.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Romain Gilsaume. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, simplement, on voit bien que l'État se concentre très souvent sur la question des personnes âgées et des professionnels en établissement. Il faut toujours mesurer que la moitié des personnes âgées qui aujourd'hui sont fragiles vivent en établissement, mais l'autre moitié vit à domicile.
Oui, c'est important de le dire.
D'où l'intérêt de les intégrer dans cette première phase vaccinale rapidement.
Mais ils ont été oubliés ?
Clairement, vous savez, les professionnels et les personnes âgées de l'aide à domicile ont été oubliés sur la première phase épidémique. Ils n'ont pas reçu les mêmes revalorisations salariales, ils n'ont pas le même soutien pour accéder à des matériels, je vous parlais des masques tout à l'heure, ou des tests. C'est encore le cas aujourd'hui. Tous les départements n'ont pas payé la prime Covid qui avait été annoncée par le président de la République. Donc, on voit bien qu'ils sont toujours oubliés ou font partie d'une seconde vague. Aujourd'hui, l'État pourrait faire en sorte qu'ils ne soient pas les oubliés de cette seconde vague épidémique et qu'ils bénéficient strictement des mêmes dispositions que ceux que celles qui sont mises en place pour les établissements et les professionnels en établissement.
Mmh. Comment, juste un dernier mot sur les fêtes. Comment est-ce que ça s'est passé pour ceux qui étaient dans ces EHPAD? Est-ce que le moral était difficile?
Des fêtes particulières, comme ouais. Pour vous, moi, tous les Français. Le président de la République avait permis des assouplissements pour tous les Français. C'était le cas également pour les personnes âgées qui vivaient en établissement, avec une facilité pour plus de visites des familles, des possibilités également d'aller les retrouver pendant des temps de déjeuner ou de dîner. Donc, tout cela a permis effectivement que chacun d'entre nous puissions passer des fêtes de façon plus proche. Et c'était bien heureux et là aussi tout à fait conforme au fait que chaque personne âgée dans ce pays est une personne citoyenne avant tout.
Comment on fait avec les malades d'Alzheimer pour recueillir le consentement? Ce sont les familles?
Il faut passer beaucoup de temps et puis effectivement, vous soulevez une question qu'il faudra que l'État traite à l'issue de cette crise, parce qu'on voit bien qu'il y a deux situations. Une situation très simple, de personnes comme vous et moi qui savent dire pour elles-mêmes, des personnes qui ont des difficultés parce qu'elles peuvent avoir des pathologies de type Alzheimer, comme vous l'évoquez, mais qui aujourd'hui bénéficient d'une protection juridique ou qui ont une personne de confiance qui a été nommée tout à fait clairement. Et donc, c'est cette personne, ce tuteur, ce mandataire qui va dire pour la personne elle-même. Et puis, nous avons une espèce de zone grise parce qu'il y a un déni de justice en France depuis 20 ou 25 ans pour ces personnes âgées, parce que la justice ne traite pas les demandes comme elle le devrait parce qu'elle est largement encombrée. Et donc, effectivement, pour ces personnes qui ont difficile à dire pour elles-mêmes, mais qui pour autant n'ont pas de mandataire précisément indiqué, eh bien, il faut prendre beaucoup de temps. Et clairement, on voit bien que la famille peut être un recours dans certaines situations parce qu'elle peut connaître des habitudes de vie. Par exemple, si la personne se faisait vacciner tous les ans pour la grippe, il y a fort à parier qu'elle pourrait être intéressée à être vaccinée. Ouais. Et pour autant, on voit bien que la famille, ça reste difficile. D'abord parce que c'est une responsabilité pour la famille. Et puis d'autre part, on a bien vu dans le cas de Vincent Lambert, oui, combien une famille peut avoir des avis partagés.
Bien sûr.
Et donc, c'est une situation très inconfortable pour la famille aussi.
Merci Romain Gilzom d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et puis, bon courage pour cette campagne qui démarre. On refera peut-être un point avec vous dans quelques jours. Merci à vous d'avoir été sur Sud Radio ce matin. On se retrouve dans quelques instants avec les débatteurs pour évoquer l'actualité. Ces 35 citoyens qui vont être tirés au sort, entre autres, et puis le retard sur la vaccination. À tout de suite.